Nous sommes en compagnie de Jérôme Vaillant, qui est professeur de civilisation allemande contemporaine à l'université Lille 3 et directeur de la revue Allemagne d'aujourd'hui, ainsi que des presses universitaires du Septentrion. Il a écrit dans la revue Allemagne d'aujourd'hui, justement à paraître début juillet, un article sur l'abstention de l'Allemagne sur la Libye au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors Jérôme Vaillant, on s'est demandé en France pourquoi l'Allemagne ne suivait pas la France, justement, dans sa demande à l'ONU d'intervention militaire en Libye en mars dernier, alors qu'il nous semblait que l'Europe était unanime. Donc l'Allemagne a fait un peu cavalier seul sur ce coup-là.
Alors, je crois que les choses sont au total
un peu plus compliquées, et peut-être même encore plus compliquées que je n'ai eu le temps de l'exposer dans mon éditorial du prochain numéro de la revue Allemagne d'aujourd'hui. On a oublié du côté français les reproches qui ont été faits du côté allemand. Du côté allemand, on a reproché précisément à la France d'être le pays qui empêchait l'Europe de se mettre d'accord sur une position commune sur la Libye. Ça paraît aujourd'hui, après coup, un peu étonnant, mais c'est la réalité des choses. En gros, l'Allemagne avait un peu le sentiment d'être à la tête du mouvement qui consistait à dire on ne doit pas intervenir sur la question libyenne, et l'Allemagne se sentait fortement soutenue dans l'affaire par les États-Unis, en particulier par le président Obama, qui s'est quand même fait fouetter pour suivre ensuite, mais après seulement, la France et la Grande-Bretagne. On a même eu le sentiment que la France, en voulant faire cavalier seul, voulait empêcher une solution européenne qui intégrerait dès le départ l'OTAN. Donc on pourrait dire que l'argumentation française qui a été utilisée couramment contre l'Allemagne a été utilisée de la même façon en Allemagne contre la France. Ce qui évidemment n'est pas la preuve d'une très bonne entente entre les deux pays, malgré qu'on en ait et malgré toutes les déclarations mutuelles d'amitié ou de bonne entente malgré tout. Alors les raisons plus profondes, pourquoi l'Allemagne n'a pas suivi la France, je pense que c'est un manque de réactivité. Et pour rester encore au niveau de l'anecdotique, un rapide rappel. Alain Juppé, depuis peu de temps, à l'époque, ministre français des Affaires étrangères, était dans l'avion qui devait le conduire à Berlin, précisément pour discuter avec l'Allemagne d'une position commune. Et puis il était rappelé pour aller défendre en personne la position française à l'ONU. Et peut-être que là, on peut dire qu'il a manqué effectivement un maillon ou que la diplomatie française n'a peut-être pas fait le nécessaire pour faire comprendre à l'Allemagne très rapidement que l'on était en train de changer de position et qu'on évoluait vers finalement une décision à trois avec les États-Unis d'intervenir au moins sur la base de la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne. Alors ensuite, les raisons plus profondes du côté allemand, c'est que l'Allemagne, et ça je crois qu'on l'a bien perçu en France, avec d'ailleurs une nuance finalement aussi de compréhension et de sympathie vu le passé de l'Allemagne, que l'Allemagne répugnait finalement à la chose militaire et en particulier aux opérations qui sont de nature véritablement guerrière, et que l'Allemagne préférait intervenir une fois la paix déjà rétablie pour construire la paix et contribuer à la remise en état de la vie démocratique, économique, sociale, culturelle, etc. Ce qui vaut évidemment à l'Allemagne le reproche de laisser aux autres les sales affaires à faire et puis elle de tirer mieux son épingle du jeu pour se présenter comme une nation, une puissance de médiation civile qui intervient pour finalement le beau côté des choses. Alors il y a cet aspect, et puis il y a l'autre aspect, c'est que l'Allemagne s'est presque donnée, je dirais, avec les années, depuis son unification en 1990, un début de doctrine de politique étrangère, c'est que l'on intervient militairement qu'en ultime recours, c'est-à-dire après avoir épuisé tous les moyens de négociation pacifique pour empêcher la guerre et que l'on intervient que si véritablement il n'y a plus d'autre moyen de le faire. Et si l'on peut critiquer le point de vue allemand, c'est que on était effectivement à l'époque dans l'urgence. Si on voulait intervenir, c'était au moment où les Français et les Britanniques l'ont fait, et non pas 48 heures après le massacre, qui était vraisemblable, vu les menaces proférées par Gaddafi.
Mais alors, du coup, l'Allemagne nous est apparue se ranger du côté de la Chine, de la Russie, de l'Inde et du Brésil, et ne pas jouer le jeu de la solidarité internationale, et mettre l'Allemagne et la Chine comme ça dans le même panier tout d'un coup, ça nous a fait un drôle d'effet.
Mais donc là, l'Allemagne a certainement joué très mal la carte diplomatique.
En tout cas, en termes de communication.
En termes de communication et certainement en termes aussi de relations intergouvernementales en Allemagne même, parce que je crois qu'un des aspects de la question, c'est la mauvaise entente entre les partis de la coalition gouvernementale, d'un côté les libéraux, d'un autre côté les chrétiens-démocrates. Donc la chancelière n'était pas vraiment favorable à l'abstention. Elle a été contente d'obliger son ministre des Affaires étrangères, Guido Westerwelle, qui est sans doute le moins bon ministre des Affaires étrangères que l'Allemagne ait connu de tout temps,
voilà, vous êtes
et de l'empêcher en tout cas de dire non, parce que lui voulait dire non. En gros, il cherchait à se profiler comme étant un bout en paix et non pas un bout en guerre, et certainement pas un bout en train en l'occurrence, et en même temps... La chancelière a eu le sentiment d'empêcher le pire, mais cela veut dire aussi que la chancelière n'a pas su véritablement jouer son rôle de chef de gouvernement qui décide des grandes lignes de la politique. Donc ça, c'est effectivement grave. Et par ailleurs, cela veut dire que l'on n'a pas mesuré les conséquences finalement de cette abstention en croyant rééditer un peu quelque chose de semblable à ce que Schröder avait fait en 2003 au moment de la deuxième guerre d'Irak. Et là, il avait au moins la France comme partenaire pour pouvoir dire « nous ne sommes pas seuls ». Et effectivement, il n'y a pas de raison de partir en guerre contre l'Irak de Saddam Hussein qui ne dispose pas d'armes de destruction massive comme les Américains l'affirmaient de façon, comme on le sait aujourd'hui, mensongère. Donc l'Allemagne n'a pas réagi assez vite. Elle n'a pas mesuré les conséquences de ses actes. Elle a réagi sans doute plus à la suite de préoccupations de politique intérieure au lieu de véritablement penser... à la fois européen et peut-être aussi franco-allemand. De ce fait, on peut dire que c'est une grave crise dans les relations franco-allemandes, même si aujourd'hui, on continue d'échanger des bisous lorsqu'on se rencontre à Paris ou à Berlin.
Ah ben on reste poli quand même entre gens de bonne compagnie.
La chancelière passe pour ne pas aimer trop les bisous.
De Sarkozy surtout. Je crois.
Entre autres.
Le ministre de la Défense, donc pour souligner le manque de solidarité avec l'Europe et le monde, le ministre de la Défense, donc Thomas de Maizière, a déclaré que l'Allemagne se réservait le droit de dire au nom des intérêts allemands que cette fois-ci, nous n'en étions pas. Ça veut dire, bon, à peu près, vous faites ce que vous voulez, mais nous gardons notre indépendance et on ne veut pas y aller.
Alors là, je nuancerais fortement l'interprétation...
Mais j'espère, c'était juste pour vous faire réagir.
...qui me semble un peu être une surinterprétation. Parce que c'est aussi un aspect des choses qui parle, je dirais, en faveur du système démocratique allemand. Il n'y a dans aucun traité de sécurité collective, ni dans le traité de l'OTAN, une quelconque obligation automatique pour quelques membres, que ce soit de l'Alliance ou des traités, de participer simplement parce que l'ONU aurait demandé. Donc de toute façon,
oui,
chaque État est libre de sa décision, on y va ou on n'y va pas. En fait, le ministre de la Défense a dit une trivialité.
Oui.
Sauf qu'à le dire à ce moment-là, évidemment, ça prend une autre dimension. Mais pour l'Allemagne, la dimension, elle est aussi liée au fait que l'Allemagne est le seul pays où le chancelier, donc le chef du gouvernement, n'est pas libre de sa décision en matière d'intervention militaire, il est obligé d'obtenir l'aval du Parlement. Imaginez ce que cela serait si, en France, on devait obtenir l'aval de l'Assemblée nationale pour toute action militaire engagée par le gouvernement. Ou par, en l'occurrence, le président, puisque c'est lui qui est, en pareille situation, chef des armées et responsable de la politique étrangère, finalement, du pays. Je pense que ça, c'est un aspect démocratique fort bienvenu, résultat du passé allemand. Et c'est là où on retrouve, de façon, je dirais, intéressante, l'effet positif des leçons que l'Allemagne a tirées de son histoire. Et cela a été, je dirais, précisé en 1994. Et vous voyez... Là, je suis en train de montrer l'aspect démocratique et en même temps les limitations. Mais quand en 1994, le tribunal fédéral constitutionnel a rendu son jugement, beaucoup en France ont parlé d'une levée du tabou militaire en Allemagne, ce que j'ai personnellement toujours un peu contesté. Je voyais moins la levée d'un tabou qu'une sorte de régularisation de phénomène qui était déjà en train de se produire. L'Allemagne participait déjà à des interventions de type humanitaire, voire même déjà militaire. Donc on a moins assisté à une levée du tabou militaire qu'à une clarification de ce que la Constitution autorisait ou n'autorisait pas. En gros, le tribunal constitutionnel a dit au gouvernement allemand « Vous décidez de la politique étrangère du pays, mais vous ne pouvez intervenir que sous le contrôle du Parlement, parce que l'armée fédérale est une armée parlementaire. » Dites en France que l'armée française est une armée parlementaire et on vous rira au nez. La France a des débats sur des questions d'ordre militaire lorsqu'il y a des interventions. C'est plutôt une information avec un semblant de débat et il n'y a pas de vote véritablement sur ces questions-là. Donc je dirais, l'Allemagne n'a pas que des torts dans l'affaire. On peut comprendre son point de vue, mais elle a eu certainement tort sur le plan diplomatique, de préférer l'abstention qui ne s'imposait pas du tout. On pourrait même aller plus loin et dire que si l'on prend des exemples précédents dans un passé récent, l'Allemagne du chancelier Schröder est intervenue au Kosovo dans des conditions, au fond, moins obligatoires, presque convaincantes, que ça n'aurait été le cas pour la Libye. Et puis l'Allemagne pouvait très bien dire oui et dire... nous admettons que les autres y aillent, mais nous redoutons des complications que nous ne voulons pas partager. À ce moment-là, nous ne participerons pas aux opérations militaires elles-mêmes. C'était tout à fait faisable.
Oui, c'était peut-être un peu risqué. Alors, il faut quand même remarquer qu'à gauche comme à droite, donc en Allemagne, il y avait 88%, ça me semble, de la population contre une intervention militaire en Libye. Je ne sais pas si on avait fait le même sondage en France, ou si on l'a fait, mais je ne l'ai pas vu passer, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu 88% contre.
Alors, je pense qu'en Allemagne, on a globalement une opinion publique qui est défavorable à tous les types d'opérations militaires, que c'est aussi une question, la question de savoir comment les questions sont posées lors des sondages d'opinion, parce que l'on peut trouver d'autres sondages d'opinion où l'on voit que les Allemands sont favorables à une intervention humanitaire.
Entre
l'humanitaire et le militaire, on sait bien qu'aujourd'hui,
en ce moment,
les différences sont fluides. Et de ce fait, on voit bien que les Allemands ne sont pas obligatoirement favorables à une politique étrangère qui conduirait l'Allemagne sur une voie particulière, mais bien favorable à ce que l'Allemagne continue d'avoir des engagements humanitaires. Alors la question de l'Afghanistan est envisagée à part.
5000 soldats sur le terrain.
5000 soldats sur le terrain, plus que les Français. Et c'est toujours ça qu'il faut aussi vérifier à l'occasion, c'est les discours d'une part, les commentaires d'autre part, et puis la réalité sur le terrain. L'Allemagne a été beaucoup plus vite présente en Afghanistan que les troupes françaises. Et si on a 4000 soldats français contre 5000 soldats allemands, c'est parce que Sarkozy a fait presque le forcing. Sinon, on était au départ à 2000-3000 soldats et ça s'est fait presque en catimini. Mm-hmm. Personne n'a véritablement su, sauf le jour où on a dit il y a 4000 soldats français en Afghanistan, on n'a pas su qu'il y avait cette évolution. L'Allemagne est obligée de rendre des comptes régulièrement sur... la mission, le type de la mission, le montant des frais engagés, les endroits et les mandats particuliers de la mission.
Mais alors est-ce que les Allemands, la question de fond, c'est peut-être finalement cette histoire des droits de l'homme et de la protection de la population. Nous, on a tout axé, avec notre Bernard-Henri Lévy national dans les médias, sur... vraiment l'intervention humanitaire. Pour nous, au départ, c'est une intervention humanitaire. Et je me rappelle qu'on disait « Oh, mais en deux jours, c'est fini, de toute façon, voilà. » Or, on y est toujours. Et peut-être que les Allemands se sont dit « Mais bon, quel est ce type d'intervention réellement? Est-ce que c'est vraiment une intervention des droits de l'homme ?» et puis après, on pourrait se dire « Pourquoi on n'intervient pas au Yémen, en Syrie, en Côte d'Ivoire, au Zimbabwe et ailleurs ?» Donc les Allemands se sont peut-être dit « Prudence ».
Alors, les Allemands se sont certainement dit prudence, mais c'est vrai qu'à force de penser prudence, c'est une façon aussi de se mettre en retrait. Et peut-être que ce qui est véritablement inquiétant dans la position du ministre Guido Westerwelle, c'est qu'il a dit très clairement qu'il revenait pour l'Allemagne à une politique de retenue sur le plan militaire, alors qu'auparavant, c'était plutôt une politique, surtout sous Schröder, c'était une politique, je dirais, d'engagement, voire même d'intervention, jamais seul, mais aux côtés précisément des alliés. La politique de retenue, c'était celle de l'Allemagne dans les conditions de la guerre froide, ou dans la situation de division qui était la sienne, elle ne pouvait pas se permettre finalement de faire grand-chose d'autre. Donc je dirais, dire qu'on revient à une politique de retenue alors que l'on a pratiqué la responsabilité et la solidarité internationale les 20 dernières années, de façon en tout cas progressive, on a le sentiment quand même d'une régression, surtout de la part d'un pays comme l'Allemagne, qui est une grande puissance exportatrice, et qui n'a pas, là c'est un aspect du débat que l'on néglige, alors qu'en Allemagne ça a aussi pas mal préoccupé les éditorialistes, alors que l'on ne néglige pas de participer à toutes les opérations anti-pirates qui menacent précisément l'approvisionnement de l'Europe en particulier, de l'Europe en général, mais de l'Allemagne aussi en particulier. Et ces opérations-là, elles ne font pas véritablement débat, elles vont de soi. L'Allemagne participe fortement aux opérations anti-pirates dans l'océan Indien.
Mais parce que les opérations anti-pirates peuvent être pensées comme des opérations de police, finalement, plus que
militaires. Oui, des opérations de police, mais il est dit clairement qu'il s'agit d'éviter les mouvements migratoires non souhaités et d'éviter les problèmes d'approvisionnement énergétique.
Ben à ce propos, il y a quand même 8,5% du pétrole allemand qui provient de Libye. Ils ont peut-être réfléchi aussi.
C'est certainement un aspect des choses, mais là, je crois que quand on regarde à peu près les engagements de chacun, de part et d'autre, on trouve toujours que chacun aurait de bonnes raisons aussi de ne pas avoir fait la guerre à la Libye. Kadhafi a été reçu en France comme l'Allemagne ne l'aurait jamais fait. Il n'y a pas si longtemps que cela, lorsqu'il a planté sa tente, je dirais pas, je pense pas que c'était dans les jardins de l'Élysée, mais enfin, c'était pas loin.
Je me demande. Moi, j'ai l'impression que c'était pas à l'Élysée, j'ai l'impression. Je ne l'affirmerai pas, il faudrait vérifier. Mais en tout cas, c'était proche du pouvoir, ça c'est
sûr.
Proche du pouvoir. Alors, il aura donc fallu plus de 2 mois, finalement, pour que l'Allemagne reconnaisse la légitimité du Conseil national de transition. Donc, dans le QG est à Benghazi. C'est 2 mois de réflexion, c'est-à-dire que c'est ces 2 mois qu'ils se sont donnés pour se dire on ne fait pas la guerre dans n'importe quelles conditions et avec n'importe qui.
C'est exact, sauf que là on revient, si on veut voir l'aspect négatif des choses, à une absence de capacité à réagir vite et à s'adapter éventuellement à une situation nouvelle, dramatique. La France a argumenté en disant si nous n'intervenons pas maintenant, on interviendra après le massacre et il sera trop tard. Alors c'est vrai qu'on peut toujours dire, empêcher un massacre une fois, ça n'est pas empêcher les autres massacres à venir, et tous les massacres. Tout le monde est d'accord pour dire, on devrait, pour les mêmes raisons qu'on est intervenu en Libye, intervenir en Syrie, et pourtant tout le monde est d'accord pour dire, on ne le fera pas parce qu'on ne peut pas le faire, et qu'il y a aussi de bonnes raisons de ne pas le faire. La Syrie étant dans une autre situation géostratégique et politique que la Libye. La Libye, en plus, est un pays qui a des côtes méditerranéennes. La Syrie, c'est un pays quand même plutôt,
Oui, puis c'est une autre aire géographique.
C'est une autre aire géographique avec d'autres enjeux.
Problème.
En fait, Kadhafi était beaucoup plus isolé qu'il ne le pensait lui-même au moment...
Mais c'était plus facile, finalement.
C'était plus facile,
bien sûr. Mais oui, tout à fait. Bon, on a quand même essayé de répondre à quelques questions sur le sujet. Jérôme Vaillant, merci. En tout cas, si on veut plus de précisions, on peut lire dans le prochain numéro de juillet de la revue Allemagne d'aujourd'hui, que vous dirigez, un article consacré au sujet que nous venons d'évoquer. Et il y a aussi au sommaire d'autres articles fort intéressants sur l'Allemagne.